Carl Bélanger, consultant en communication, ex-stratège politique, notamment avec le bon Jack Layton, dont tu vas nous parler dans un instant. Carl, bonjour.
Bonjour.
Et Paul Journet, éditorialiste à la presse, qui assistait, si je ne m'abuse, au dévoilement du cadre financier du Parti québécois.
Bonjour Bernard, et tu ne t'abuses pas, j'y étais.
Alors comment, résume-nous ça.
Oui, mais je pense que la première question que les gens se demandent, c'est est-ce qu'il y a un parti qui est plus dépensier que les autres puis qui pousse un peu fort sur le crayon avec les dépenses? Pas vraiment. Quand tu regardes, là, autant les libéraux caquistes que péquistes, les dépenses à terme, la dernière année, là, les dépenses qu'ils ajouteraient, ça serait entre 2,4 puis 2,7 milliards.
Mais en même temps,
donc, ça se ressemble pas mal.
En même temps, tu nous as dit hier, et la CAQ et les libéraux prévoient une croissance économique plus forte que
le secteur
privé.
C'est ça, ils ont chacun leur faiblesse. La faiblesse, je peux y revenir, des libéraux et de la CAQ, c'est qu'ils exagèrent sur l'argent qu'ils pensent avoir. Les deux, ils ont augmenté la croissance économique prévue, ce qui est un jeu de passe-passe facile dire que tu vas avoir plus d'argent. Et aussi, ils misent sur des grosses économies avec le gaspillage. S'il y a du gaspillage, tout le monde est pour qu'on aille chercher l'argent, mais on a souvent joué dans ce film-là des gouvernements qui disent qu'ils vont aller chercher de l'argent, puis finalement, le gaspillage, il y en a peut-être, mais il y en a moins qu'on pense.
C'est plus facile à dire. Plus facile à dire qu'à
donc,
faire.
C'est la faiblesse des libéraux et des caquistes.
Les péquistes,
la faiblesse des péquistes, eux, ils sont très prudents. Eux, c'est les seuls là, qui ont joué selon les règles du jeu pour ce qui est des prévisions de croissance économique et de revenus.
Ils respectent les prévisions de la BG.
Ils respectent, c'est les seuls, puis il faut leur donner le crédit. Par contre, eux, ils intègrent dans leur cadre financier les économies espérées des médecins. Espérer, c'est le moins important dans l'affaire. On a entendu la clip tantôt de Jean-François Lisée. On sait qu'ils veulent renégocier les ententes avec les médecins. C'est une chose de dire que les médecins sont partis avec la caisse. C'en est une autre de penser qu'on va être capable d'aller chercher cet argent. Puis on demandait à M. Lisée, ben comment vous allez vous y prendre pour les convaincre? Puis il disait, ce serait le geste le plus humaniste qu'on pourrait poser chez les médecins. En tout cas, les médecins n'ont pas été humanistes quand on touche à leur portefeuille.
OK, de compter sur le fait qu'ils vont renoncer d'eux-mêmes à l'argent, là?
Et j'ajoute, ce serait, j'ouvre les guillemets, un très beau moment social, a dit Jean-François Lisée. Puis moi aussi, je suis un idéaliste.
Il l'a dit sans
rire. J'ai pas fait gros plan sur sa face, mais il semblait très détendu, cela dit. Puis, en terminant, jusqu'où est-il prêt à aller? On lui a posé la question. Une loi spéciale avec les médecins, est-ce que vous y pensez? Il n'a pas fermé la porte.
Ah non?
Ah non.
Hmm.
Hmm, en effet.
Alors, très bien. OK, parlons un peu débat. Puis, d'ailleurs, Lisée a parlé de sa préparation. Paul, tu vas nous en glisser mot, mais je veux aller vers toi d'abord, Carl, parce que toi, tu as participé à la préparation de chef.
Oui, effectivement. Oui, j'ai participé à la préparation de 6 chefs différents, 24 débats des chefs au total. J'ai un petit peu d'expérience là-dedans.
C'est quoi, là? Évidemment, tu pourrais prendre la demi-heure pour nous résumer ça, mais prendons 1 minute et demie pour nous dire c'est quoi qui fait que... C'est quoi la clé d'une bonne préparation?
Mais la première des choses, c'est qu'il faut mettre le chef en confiance. Parce que chacun des chefs est différent, donc leur préparation va être différente également. Mais il faut qu'ils soient en confiance quand ils arrivent au débat, parce que c'est souvent un moment clé pour la campagne et même pour une carrière politique. Donc, il faut que la personne maîtrise son matériel, maîtrise sa stratégie, quels sont ses objectifs. Et donc, on prépare en ce sens-là. Nous,
toi, t'as préparé Layton, hein? T'as préparé Jack Layton?
Oui. Hein? Oui, puis j'ai presque autant d'expérience à débattre en tant que Gilles Duceppe parce que nous on faisait des jeux de rôle.
Oui.
Donc on entrait dans les personnages et on tentait de mettre Layton à l'aise avec le format, comment les différents chefs vont agir, et c'est ce qu'on faisait.
Et c'était toi, Duceppe quand
c'était moi Gilles Duceppe.
Oh,
oui,
c'est bon.
Donc j'étais Gilles Duceppe et je défendais les intérêts des Québécois et des Québécoises. Comprends-tu?
Oui. Est-ce que tu as réussi à un moment donné à embarrasser Layton en jouant Duceppe?
C'est arrivé à quelques reprises, mais c'était surtout avec Paul Martin que je m'amusais, ou avec Stephen Harper, parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait ma personne, parce qu'on avait beaucoup les mêmes électeurs. Donc, je sortais des lignes, puis après ça, Layton pouvait les voler dans le vrai débat. Donc, on utilisait un peu ce format-là pour sortir des lignes assassines, pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas.
Donc, tu veux dire, tu te mettais dans la peau de Harper, puis tu jouais cochon avec Layton, puis il sortait des lignes qu'il l'utilisait contre Harper?
C'est le contraire. J'étais Gilles Duceppe, on avait Harper qui était là. Moi, j'attaquais Harper avec des lignes qui venaient de Duceppe, que Layton, après ça, par la suite, pouvait prendre puis les adapter à son message.
Et les utiliser contre Harper à son tour. Ouais,
ça va exactement. Être agréable de nier ton ennemi pendant quelques secondes comme
hein?
ça.
Oui, c'est ça.
C'est très agréable. C'est pas facile, par exemple, parce qu'il faut être crédible. Il faut être crédible. Il faut donner la réplique au chef. Donc, à Layton, il faut vraiment qu'il voit comment Duceppe va agir en débat. Et en même temps, on essaie de voir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses des chefs. On a des équipes qui étudient hein, quels sont les hameçons auxquels les autres chefs vont mordre? Quelles sont les choses qui les font sortir de leur gond? Quel bouton on doit appuyer pour qu'on les déstabilise? On a des équipes qui étudient les points de presse, tout ça, puis après ça, on met ça dans la préparation de débat pour que les chefs soient équipés pour déstabiliser les autres chefs pendant le débat.
C'est très intéressant. Paul, tu souhaites enchérir et nous parler peut-être de ce que
Lisée... De la préparation de Jean-François Lisée. J'ai eu des informations exclusives. En fait, elles ont été dites en conférence de presse, mais elles sont exclusives parce qu'elles sont dites pour la première fois à ton émission. Donc, les jeux de rôle péquistes, Bernard. Veux-tu oui. savoir qui joue Philippe Couillard?
Philippe
Nicolas
Couillard.
Nicolas Marceau. Manon Massé, elle est jouée par Agnès Maltais.
Oui.
François Legault, il est joué par Alain Terrien.
Oui.
Donc, on voit que c'est un assez bon casting. Alain Terrien, il peut avoir pas mal de décibels dans sa voix. Oui. Il peut s'emporter bouillant. Nicolas être, Marceau, oui. un peu plus flegmatique. Donc, ce sont des bons choix.
Oui.
Et Jean-François Lisée, ce matin, il présentait son cadre financier, alors que j'imagine qu'il aurait préféré être en train de se reposer ou de se préparer. Il a un peu été piégé par le calendrier. Que va-t-il faire avec les quelques heures qui lui restent? Il va essayer de se détendre. Comme disait Carl, les chefs veulent se mettre en confiance. Ils veulent aussi peut-être des fois se changer les idées. Ça doit varier selon les chefs. M. Lisée a dit qu'il allait faire quelques longueurs de piscine et passer du temps avec sa conjointe.
Donc, il avait l'air détendu, il avait l'air...
Moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air très détendu ce matin. Il avait l'air serein, confiant, particulièrement par rapport à ce que disent les sondages.
Oui.
Mais c'est aussi le propre de M. Lisée. Je pense qu'il a une très grande confiance en ses propres moyens,
oui.
particulièrement en sa rhétorique, non sans raison, parce qu'en effet, c'est un très bon tribun. Et il semblait confiant.
Mais calme le matin, c'est une chose. À 10 minutes, 15 minutes du début du débat, je peux te le dire d'expérience, les chefs sont nerveux. D'ailleurs, la première fois que Jack Layton a fait un débat national, sa femme, Olivia Chow, lui avait préparé une petite shot de scotch pour le calmer.
C'est vrai?
Ben oui.
Oh, c'est bon ça!
Alors, ça l'avait calmé, ça avait enlevé un peu de stress.
Ça a marché?
Il est allé faire son débat. Ça a marché. On a eu d'autres problèmes. Et dans le débat,
c'était combien de shots, Carl?
C'était juste une petite shot. Mais,
la prochaine fois, ça va être une puff.
On avait étudié, les conseillers lui avaient décidé que Jack Layton devait sourire. C'était la clé pour le langage non-verbal. Donc, alors, il y avait un code avec un de ses conseillers que sans s'il souriait pas assez, il enverrait un pin par BlackBerry. Le problème, c'est que Layton avait son BlackBerry, puis tout le monde y envoyait des pins. Fait que là, il souriait tout le long du débat, puis le lendemain, les textes parlaient de Layton, le jovialiste. C'était un désastre.
C'est intéressant. On va s'arrêter parce qu'au retour, il y a un sondage, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a été publié dans le journal La Presse sur les jeunes et la campagne électorale. Et m'a dire, pour ce qui est de la souveraineté, là, c'est dur. C'est une phase très difficile. Et Carl va nous parler un petit peu aussi du brasse-camarade au Parlement ontarien hier. Ça a vraiment, mais je vous le dis, là, vraiment brassé dans un instant. De retour avec Carl Bélanger, Paul Journet. Paul, donc, ton journal La Presse Plus qui publie ce matin un sondage sur les jeunes et la campagne électorale. D'abord, ramasse-nous là, l'essentiel de ce qui te saute au visage là-dedans.
Bien, je vais m'attarder à un point. Là. Il y a plein de trucs sur la participation électorale des jeunes. Sont-ils si désabusés? C'est quoi les valeurs importantes pour eux? Mais moi, ce qui m'a frappé, c'était leur attitude par rapport à la place du Québec dans le Canada. On le sait, dans les années 70, les jeunes étaient plus souverainistes que le reste de la population. Dans les années après 90, les jeunes l'étaient autant que le reste de la population, puis là, ils le sont moins.
Beaucoup moins.
Beaucoup moins. Ça, on le savait, mais moi, il y a une question qui m'a vraiment surpris. Quand on demandait aux jeunes, c'est plus populaire pour les jeunes de le statu quo que d'avoir de nouveaux pouvoirs au sein du Canada. Donc, on savait déjà que les jeunes n'étaient pas indépendantistes, ou très peu. Mais là, quand tu demandes aux jeunes, est-ce que tu veux un peu plus de pouvoir au sein du Canada ou tu veux rien? Ben, il dit, préfère rien. C'est rare, là. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux que le Québec ait plus de leviers pour se développer? Non, je veux rien. Et ça, écoute, c'est même plus, on n'est même plus dans le clivage indépendantiste, fédéraliste. Là, je ne te parle même pas des fédéralistes nationalistes qu'on a eus. On a eu Claude Ryan et Robert Bourassa qui, même s'ils étaient fédéralistes, voulaient que le Québec aille chercher beaucoup plus de pouvoir. Mm-hmm. Ils ont été suivis
ils étaient
par,
nationalistes.
Ouais, ils étaient nationalistes, ouvertement.
Oui, ouais,
on peut
ouais,
dire.
C'est ça, c'est ça.
Et ensuite, tu as eu... Sauf que même Jean Charest et Philippe Couillard, qui sont très, très, très fédéralistes, même eux... Il voulait plus de pouvoir. Même Jean Charest, il voulait des pouvoirs en communication. Puis les jeunes disent, ben, ce que Jean Charest demandait, j'ai pas besoin de ça. C'est peut-être trop. Ben, ils disent pas tout à fait c'est trop, mais ils disent, moi, je me contente de rien. Donc, c'est très étonnant. Et je me demande si c'est peut-être pas, au moins en partie, la conséquence d'un manque de culture politique. Peut-être qu'ils ne connaissent pas des revendications historiques du Québec qui, encore une fois, j'insiste là-dessus, sont celles même du clan fédéraliste.
Moi, je vais te dire, en tout cas, là, mon inquiétude quand je vois des chiffres comme ça, puis Carl, je vais aller à toi dans un instant, là, mon inquiétude, moi, c'est que d'ici quelques années, il y a quelqu'un, un premier ministre du Québec ou une première ministre qui va dire, savez-vous quoi? La Constitution canadienne, là, on va signer ça. On a refusé de la signer jusqu'à maintenant parce que on a toujours dit, premier ministre après premier ministre, qu'on la signerait à certaines conditions. Dans le cas de Bourassa, c'était l'entente du Lac-Meech qui disait il faut avoir...
5 conditions de Meech,
voilà, une société distincte,
les
juges, la nation reconnue, etc. Mais moi, je regarde ces chiffres-là puis je me dis... Écoute, éventuellement, là, ces jeunes-là là, vont devenir de plus en plus présents dans l'opinion publique et tout le reste, ils vont finir par avoir 30, 35, 40 ans. Puis s'ils continuent comme ça, ben là, éventuellement...
Mais à l'heure des charges, peut-être aussi que si on n'en parle pas, c'est que le Québec a personne avec qui négocier. Ça existe-tu vraiment quelqu'un dans le Canada qui a le moindre appétit de négociation constitutionnelle à part, puis
non, mais
à part
Paul, les... tu gardes quand même ta position minimale. Tu sais, tu dis, bon, on va au moins pas signer, on va au moins attendre d'avoir quelqu'un à qui parler.
Oui, c'est ça que j'ai dit, mais moi, je vais juste dire qu'il y a, une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas, c'est parce qu'il n'y a personne au Canada, puis je pense que Carl veut réagir à ça, mais il n'y a personne au Canada qui veut
négocier. Il y a des gens au Canada qui sont ouverts à ça, puis je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être encore plus ouverts aujourd'hui en regardant ce que Doug Ford est en train de faire avec la clause nonobstant, puis on va en reparler tantôt, mais la réalité, c'est que les jeunes aujourd'hui sont passés à autre chose, puis c'est pas pour rien que le PQ puis Jean-François Lisée, ils ont regardé les chiffres puis ils ont vu que ça levait pas, fait qu'ils sont allés ailleurs.
Ouais, mais Carl,
le problème,
Carl,
oui,
moi ça me dérange pas. Oui, ça me dérange là, mais j'accepte, je constate et j'accepte que les jeunes se disent la souveraineté, là, en tout cas en ce moment, là, ça m'intéresse pas, puis pour moi, c'est pas un débat. OK, je suis prêt à accepter ça.
Je comprends ça.
Mais là, c'est plus que ça, là. Là, c'est pas juste qu'ils sont plus indépendantistes, c'est qu'ils sont de moins en moins nationalistes. Et pour moi, le mot nationaliste ou nationaliste, c'est pas un mauvais mot. Même si Trump et la gang d'extrême droite en Europe sont en train d'y donner une connotation extrêmement négative, moi, je pense qu'on peut être un nationaliste progressiste. Moi, je me considère comme un nationaliste de gauche. Je crois à l'État, je crois à la justice sociale, je crois à l'environnement, je crois à l'identité aussi. Bon, hein, pas besoin de dire ça à nos auditeurs. Mais tu sais, pour moi, le mot nationaliste, ça reste un beau mot. Et être un nationaliste québécois, c'est quelque chose de beau. Et je regarde ça, puis je me dis, non seulement les jeunes sont de moins en moins souverainistes, ils sont de moins en moins nationalistes. Et ça m'inquiète.
Ça les intéresse pas, ces choses-là. Oui. La réalité, c'est qu'ils veulent parler d'environnement. Ils sont plus tournés vers le monde. Ils se considèrent plus comme internationalistes s'il y a quelque chose.
Mais il y a une nuance dans le sondage, parce que quand on demande aux jeunes s'ils sont citoyens du monde, c'est pas vrai. Ils disent pas qu'ils sont citoyens du monde. Ils se disent d'abord et avant tout québécois. C'est ça le paradoxe, puis qui est difficile à décoder. D'une part, les jeunes se disent d'abord québécois avant de se dire canadien et avant de se dire citoyen du monde.
Ouais.
C'est comme si les jeunes vivaient une espèce d'indépendance psychologique.
Ouais.
Dans
mais
leur
55%,
tête,
c'est plus bas que c'était avant, ça.
Oui, c'est plus bas.
C'est beaucoup plus bas.
Oui, mais y a les chiffres, là, ça varie, mais je serais prudent dans l'interprétation parce que y a dans le sentiment d'attachement au Québec, il a même augmenté. J'avais déjà sorti les chiffres, il faudrait les déterrer, puis ça dépend comment tu le mesures, mais en somme, c'est comme si les jeunes avaient une indépendance psychologique dans leur tête. Le Québec, ben, c'est différent du Canada, puis c'est correct, puis c'est déjà protégé, puis on n'a pas besoin de faire de gestes politiques, puis ils sont Québécois dans leur tête, puis ça leur suffit.
Puis relativement, ça va bien.
Mais le mot-clé, là, tu viens de le dire, Paul, puis je le disais ce matin à la tribune dans ma chronique à Paul Arcand. Pour beaucoup de jeunes, l'indépendance est déjà faite dans leur tête. L'indépendance, elle est déjà faite dans leur tête. Il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent réaliser. Le fait d'être un Québécois francophone, ça ne comporte aucune contrainte, aucune restriction. Alors qu'il y a 40 ans, tu étais un citoyen de seconde zone. C'est réglé. The sky is the limit.
Je ne sais pas si l'indépendance existe est faite pour eux. Sauf que c'est
une indépendance individuelle.
C'est
l'indépendance.
Ça, ils ne sentent pas les obstacles devant eux. C'est
et, voilà. Et puis pour eux autres, l'État puis la politique, ce n'est pas un moyen... Pour plusieurs d'entre eux, ce n'est pas un moyen de faire avancer leur intérêt individuel ou de se rapprocher du bonheur. L'État, la politique n'est pas un moyen pour être plus heureux. Ils se débrouillent très bien tout seuls, dans leur esprit, encore une fois. Carl, parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé à Queen's Park hier. Tu as 1 minute 30 pour me résumer ça.
Écoute, Doug Ford veut faire adopter son projet de loi pour diviser en deux le Conseil de Toronto. Il utilise la clause dérogatoire. Les gens sont très intéressés par ça. Écoute bien ce qui s'est passé pendant la période de questions hier à Queen's Park.
Premier can finish his answer. I'm sorry, we're going to have to clear the galleries.
Fait que là, écoute, les gens qui étaient dans la galerie des spectateurs, ils se sont fait menotter, ils se sont fait sortir. Puis là, on parle pas des jeunes universitaires ou des Black Blocs, là. Il y avait une madame de 77 ans qui était là, en menottes, elle s'est fait sortir. Écoute, c'était quelque chose. Et puis, un peu plus tard, lors du dépôt du projet de loi, l'opposition officielle du NPD s'est mise à chahuter pour empêcher le ministre de déposer son projet de loi. Et là, un par un, le président de l'Assemblée les a tous expulsés, ou à peu près, il en restait une dizaine à la fin. Donc, c'était jamais vu. C'est jamais vu à Queen's Park une utilisation comme ça de la clause dérogatoire, mais aussi un chaos total, non seulement à Queen's Park, mais évidemment au conseil municipal à Toronto, parce qu'on sait pas comment on va faire. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que, sous le modèle des 25 sièges, les candidats vont pouvoir avoir 2 jours pour se revirer de bord puis choisir où ils vont se présenter.
Yes, syncope. OK, on en reparle demain, Carl. S'il y a d'autres développements, je rappelle que tu es consultant en communication, ex-stratège politique au fédéral avec le bon Jack, notamment. Et Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci, Paul.
Merci, à demain.
Merci, Carl. À demain, tout le monde.